Amen, amen.
Que le Seigneur soit glorifié pour ce qui vient de se passer. Il est grand, notre Seigneur, il est digne des louanges. Voilà, nous avons suivi la lecture à partir du texte de Luc. Mais à ce texte-là, je vais juste rajouter le verset qui précède. Donc, je vais vous amener à lire toujours dans Luc chapitre 19, à partir du verset 29. Je ne vais plus reprendre à ce que Maman Safi vient de lire. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont appelé Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, disant, « Allez au village à qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui direz, « Quoi ?» Tous ensemble. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres lui dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ? » Ils répondirent, Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et à mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et la suite, c'est ce que nous avons suivi. Je vais vous inviter à prendre aussi une deuxième lecture dans le livre de Zacharie, la prophétie de Zacharie. Zacharie, c'est juste avant Malachie. Donc c'est très facile à trouver. C'est juste avant Malachie. Et entre Agé et Malachie. Et c'est au chapitre 9, nous allons lire deux versets. Chapitre 9, verset 9 jusqu'à 10. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je le trancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arts de guerre seront retranchés. Il parlera de paix aux nations et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Le thème sur lequel nous voulons réfléchir s'intitule de la manière suivante. Réjouis-toi, ton maître vient pour t'élever et te sauver. Et à considérer la manière dont nous avons commencé ces cultes dans la joie, nous nous sommes réjouis énormément. Nous nous sommes, pour le dire en français courant, nous nous sommes éclatés devant le Seigneur. Cela montre combien que nous voulons accueillir le Maître. Et ce Maître que nous voulons accueillir, il est là pour nous élever chacun et nous sauver chacun de la situation par laquelle il est en train de passer. En fait, ce dimanche est appelé dans le calendrier liturgique dimanche de Rameaux. Dimanche de Rameaux parce que c'est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui ouvre la semaine sainte. Ce que nous aurons à suivre dans les annonces, et le pasteur va nous mettre en face par rapport à cette semaine que nous voulons commencer, une semaine qui est cruciale, une semaine qui est très très importante, parce que c'est une semaine qui marque notre salut. Alléluia. c'est que Christ va jusqu'au bout de sa mission pour te sauver de la vraie manière de vivre et pour me sauver de la vraie manière de vivre. Je disais donc qu'il s'agit d'un dimanche spécial et un dimanche spécifique dans la mesure où tous les trois évangélistes, je vais parler ici de Matthieu, Marc et Luc, reviennent sur cet événement. Ils veulent nous montrer que Jésus est monté une fois, je dis bien une fois à Jérusalem, pour y être crucifié. Et c'est là qu'il va ressusciter le troisième jour. Alléluia. Amen. C'est dimanche de Ramon parce que la foule avait reconnu en Jésus le roi. Mais pas comme les autres rois. Et cette foule devait être en liesse pour l'entrée du roi dans la ville de paix qui est Jérusalem. Vous savez bien, Jérusalem, cela veut dire la ville de paix. Jésus devait rentrer à dedans. Dimanche des Rameaux, car la foule, dans une spontanéité sans pareille, dans une joie immense et sans pareille, dans un enthousiasme hors commun, eh ben les gens ont coupé les rameaux. Et c'est là que le président du culte nous a connus. Si vous n'avez pas le rameau, il fallait avoir les mains pour faire l'essuie-glace. Et il m'a coupé un petit bout que je garde là-bas à côté. Il dit, bon, comme toi tu n'en as pas, je te donne. Oui, c'est pour montrer combien que le roi, comme l'a dit Zacharie, le roi est victorieux. C'est que la victoire de Jésus avait déjà été proclamée avant que cela n'arrive. Alléluia. Il est victorieux sur les oppresseurs. Et alors, fort de cela, ils se sont dépouillés même de tous leurs habits pour les étendre par terre. Et ils ont formé une chorale, à une chorale à qui a pu chanter sans avoir fait quoi? Des répétitions. Pas de rêve ces jours-là. Mais parce que le roi des gloires faisait quoi? Son entrée à Jérusalem. Le roi des gloires faisait son entrée à Jérusalem. Et il fallait voir la composition à qui était spontanée. Et cette composition, ça reprenait quoi? Les prophéties de l'Ancien Testament. Béni soit le roi, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Il fallait élever celui qui était là. Et alors les passages que nous avons lus nous donnent des précisions géographiques. Géographique en rapport avec les événements. Il n'est pas question des à peu près, il est question des précisions. Et la parole de Dieu nous dit, dans Luc, là où nous avons lu, lorsque Jésus s'approcha de Bethphagé, c'était à quelques kilomètres, et de Béthanie, c'était dans le parage, ce n'était pas loin, c'était à peu près entre 5 et 10 kilomètres de Jérusalem. Donc c'était de Goma Ouest jusqu'à Goma Ville. Vous voyez déjà que ce n'était pas loin. Vers le mont appelé le mont des Oliviers. Et la parole de Dieu dit, il envoya deux de ses disciples, mais avec un ordre précis. Précision par rapport à la géographie du milieu et ordre précis. Et alors d'abord, nous allons voir les indications géographiques. Il va dire ceci, aller dans le village qui s'est trouvé où c'est? Ah, ils n'ont pas bien lu. Aller dans le village qui s'est trouvé où? En face. Et vous y trouverez quoi? Un anneau qui était attaché. Et cet anneau était un anneau sur lequel aucun homme ne s'était jamais assis. Il savait tout ça. Et ensuite, maintenant, il y a un ordre précis. Et faites quoi? Détachez-le et amenez-le. Alors, il continue. Au cas où on vous posait une question, pourquoi le détachez-vous? Voici la réponse. C'est quoi comme réponse? Ah, j'ai des étudiants qui sont bien. Le Seigneur en a besoin. Ici, il y a un grand paradoxe. Hein? Et je vais vous demander à ce que vous puissiez le découvrir avec moi. Et c'est le paradoxe qui est chanté aussi par le groupe Gaël dans Mwananapate. Et ce paradoxe, c'est quoi? Jésus qui est le créateur du monde, ok? Et de tous ceux qui s'y trouvent, même de celui à qui il a demandé, il a donné la charge d'administrer donc l'homme. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé l'anneau, le petit de l'ânesse. Mais le voilà, en train de vouloir s'en servir. Et il veut s'en servir avec la permission du qui? Du propriétaire, de son gérant. Mais quand nous faisons un regard à rétrospectif dans la vie de Jésus, eh bien, sa vie était émaillée de ce genre de paradoxes. Et c'est ça ce que nous révèle son humilité. Il a dû emprunter une crèche qui ne lui appartenait pas pour sa naissance. Vous réalisez?
Oui.
La crèche appartenait à qui? Dites-le à haute voix, moi je suis enseignant.
Au berger.
Au berger ou aux bêtes? Voilà, c'est à vous de donner la précision. Il a dû emprunter un bateau pour traverser la mer. Il a dû emprunter quoi? Une chambre haute, là où il devait célébrer la Sainte-Cène. Il a dû emprunter un anneau pour entrer dans Jérusalem. C'est ça ce que j'appelle paradoxe. Lui qui est à tout créer, mais il sollicite aussi la permission de celui à qui il a donné la gestion de ce qu'il a créé. Il nous fait participer à son œuvre. Même s'il pouvait prendre, parce que c'est lui le Seigneur, mais il demande l'autorisation. C'est ici où nous voyons la parole de Dieu nous dire qu'il s'est rendu pauvre pour que nous soyons comment? Riches. Alléluia. Ah, nous devons acclamer ce Seigneur-là. C'est lui qui a pris à charge toute ta pauvreté pour qu'aujourd'hui tu sois devenu riche. Et c'est ça le paradoxe de la vie que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Jésus a donné des instructions à ses disciples. Quand Jésus nous instruit, mes bien-aimés, il nous donne des paroles qui sont claires. Il n'y a pas des à peu près en disant, bon, peut-être, à cause. Ou bien il ne donne pas de paroles avec, des à peu près de cassoro, cassoro. Mais ça, la parole de Jésus est claire. Et les paroles de Jésus sont claires, elles ne sont pas vagues. Ce que nous avons de quoi à mettre notre confiance dans ces paroles-là. La parole de Jésus était claire, mais elle n'était pas du tout évidente. Parce que les disciples devaient prendre l'anneau sans rien demander. Mais Jésus prévoyait déjà ce qui allait se passer. Et la réponse était préparée. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous allez lui répondre, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus, qui est le Seigneur de nos vies, nous demande parfois de faire des choses qui ne sont pas évidentes à première vue. Des choses qui ne sont pas évidentes à première vue parce que des fois ça nous dérange dans notre effort intérieur. Seigneur te dit, voilà comme il y a un travail qui est devant toi et dans l'église où j'étais établi. Voilà que tu dois participer à ériger le temple pour mon honneur. Mais des fois, nous hésitons. On se pose beaucoup de questions. Combien dois-je mettre sur le papier de souscription? Il y a tout un questionnement dans notre esprit. Et c'est ça ce que le Seigneur nous demande. Mais ce qui est intéressant à constater ici, c'est que les disciples ont obéi à la parole de Jésus. Ils sont allés. Ils sont revenus avec quoi? Avec l'anneau. Le propriétaire n'a pas opposé à la demande de Jésus une quelconque résistance. Et alors, découvrons ce qui est dit à partir du verset 35. On amena l'anneau, le petit de l'âne. C'est que Jésus n'a pas choisi quelque chose d'assez spécial. Alors les jeunes, vous pensiez si Jésus allait venir à notre époque, il allait choisir quoi comme véhicule à Goma? Les jeunes. Il allait choisir quoi? Une amère, n'est-ce pas? Vous connaissez le prix? Vous connaissez le prix? C'est 80 000 à 100 000, non? À 100 000 balles. Et en dessous de la mer, il y a quoi? Même si vous ne voulez pas le dire, vous le savez. Hein?
La limousine.
Ah, mais ça, c'est encore supérieur, maman Rebecca. C'est pour les raïs, hein? Les limousines. Alors voilà, n'est-ce pas? La manière dont nous nous comportons et la manière dont les grands de ce monde se comportent, ils choisissent ce qui frappe. Une limousine à 6 portières ou à 8 portières, je ne sais pas, parce que je ne suis jamais rentré dedans. Mais Jésus a choisi, il n'a pas choisi, il n'a ni choisi, il n'a choisi ni carrosse, oui, ni cheval, mais quoi? Un anneau. Ben, je ne sais pas si vous pouvez réaliser cela. Qu'est-ce que ça représente? Je dirais malheureusement, il a choisi quelque chose de tout bas quand même. Jésus, tu as choisi quelque chose de tout bas. On pouvait encore comprendre s'il avait choisi un âne. Ok? Mais le petit, imaginez là où il est allé. Le petit de l'ânesse, mais quelle humilité! À un Dieu tout puissant, mais qui s'amène à Jérusalem avec, bien sûr, le petit d'un âne. C'est vraiment une humilité qui est déroutante. Et quand je lisais ce texte, moi je me suis dit, c'est une humilité qui est dégoûtante. Ça dégoûte, n'est-ce pas? Parce que si c'est ça le modèle sur lequel nous devons nous inscrire, c'est qu'il y a des choses à faire dans notre existence. Alléluia. Parce que nous rêvons grand, des choses grandes. Nous rêvons toujours quelque chose où je serai le premier, où ce sont les autres qui vont emboîter mes pas. Alors, quand un grand de ce monde quitte chez lui, il fait d'abord la démonstration de ses biceps. Il montre, n'est-ce pas, sa force. Quand votre raïs arrive à Goma, n'est-ce pas que c'est la démonstration de force, de puissance qui se manifeste sur son passage. C'est à vous de voir la manière dont vous devez vous placer sur le chemin, et alors que le chemin, c'est à nous tous. La route, c'est à nous tous. Et il faut voir comment ça glisse sur les bouts de goudron que nous avons. Et à toute allure, ce véhicule-là est bien blindé parce qu'au devant, il y a tout un arsenal. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, je me dis, même la route ne pourra jamais leur dire félicitations. Parce qu'elle est à nous tous. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus entre à Jérusalem sur le petit d'un âne, en lieu et place d'un cheval. Et pour signifier quoi? Que c'est le roi. Le roi a de la paix. Alléluia. Le roi de la paix. Il ne vient pas pour faire la guerre. Mais il vient pour restaurer. Il vient pour restaurer l'être humain dans sa dignité d'homme, en lui donnant la paix. Et la foule avait bien compris, mes bien-aimés, que le roi est déjà là. Il n'était pas question de dire, mais tu ne vois pas le roi, c'est lui qui est là. Non, ils ont reconnu que la prophétie est en train de s'accomplir en Jésus. C'est que le roi qui vient, le roi qui était là, il manifeste que celui, il est le roi qui vient à juste pour restaurer l'être humain, comme je venais de le dire. Et alors la foule y a reconnu cela. La foule y a compris que nous avons affaire à un roi, mais pas n'importe quel roi, mais un roi de paix. Eh bien, vu sa monture, et la foule devait changer de donne. Et la parole de Dieu nous dit, ces gens jetèrent leurs habits sur le petit de l'âne, d'abord avant que Jésus ne monte dessus. Et si l'âne devait prendre conscience de la scène, il pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je n'ai jamais vu ça. Mais c'était un âne. Et il ne prend pas conscience de ce qu'il y a. Mais alors plus il avançait, plus les gens étendaient leurs vêtements. Et la joie, la réjouissance étaient très très fortes. Et comme ils s'approchaient de Jérusalem, la liesse s'est transformée en quoi? En louange forte. Au point de faire éclater le ciel avec la louange. Et comme le fait à certains égards, éclat d'adoration. Voilà l'appellation. Éclat d'adoration. C'est que la chorale fait éclater les ciels par l'adoration. Et les disciples, et la foule, c'était incontrôlé, poussé par la reconnaissance du miracle que Dieu avait opéré. Ils ont loué, adoré, sans avoir fait ce que nous appelons la répétition. L'action des grâces, mes bien-aimés, fait éclater la louange. Alléluia. On ne peut jamais se taire. On ne peut jamais se taire, je vais y revenir. Et parmi la foule, maintenant, il y avait deux types de personnes. Il y avait la foule qui était en train de louer le Seigneur, de l'adorer. Et c'était la grande majorité, n'est-ce pas, qui était là pour dire Hosanna, qui criait Hosanna. Mais il y avait dans la foule une autre catégorie de personnes. Et cette catégorie-là s'appelle le pharisien. Et ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ah, il ne pouvait jamais même croire une minute qu'il était là pour être élevé. Mais ce qui trottait dans leur tête, c'était quoi? La crucifixion. Ils étaient tellement instrumentalisés par le diable, car le diable, vous le savez bien, n'aime pas quand nous louons le Seigneur. Il est contre la louange parce que là, nous rendons gloire à notre Dieu. Et comme il se met en concurrence avec son Créateur, et c'est ça la facilité même du diable, se mettre en concurrence avec celui qui t'a créé, il ne veut pas assez que la louange forte éclate de nos bouches. Et alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons apprendre de ces textes? Il y a des choses sur lesquelles je veux revenir. Car bien même, je les aurais dites au passage. La première des choses que nous devons reconnaître, c'est que Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Il sait tout. Il est omniscient. Jésus est Dieu. Et donc, toute personne qui ne confesse pas que Jésus est Dieu, elle est dans le faux. Que ce soit une secte qui ne reconnaisse pas que Jésus est Dieu, C'est une secte qui est dans le faux. Jésus est Dieu, il est omniscient. Plus d'une fois, il a envoyé ses disciples pour telle ou telle autre chose. Et les disciples trouvent les choses exactement comme il leur avait dit. C'est que rien n'échappe à Jésus. Même la situation de ta vie n'échappe à Jésus. Il le voit. La situation par laquelle tu es en train de passer, il la voit. S'il s'agit de plusieurs situations, il les voit, il les connaît. Comme il est Dieu qui connaît tout, cela devrait nous encourager, mais bien aimé dans le Seigneur, à lui faire confiance. À lui faire confiance et à croire à sa parole qui n'a pas encore dit les derniers mots devant la situation et la situation par laquelle tu es en train de passer. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut te rencontrer dans ta situation. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Mais il demande à ce que tu les confesses d'abord comme le Seigneur qui connaît et qui est capable de t'en sortir parce que c'est lui qui a le contrôle de tout dans ta vie. Et devant tous les questionnements et dans l'épaisseur de tous ces questionnements que tu te poses, Jésus est au-dessus. Il a le contrôle de tout. Il veut que tu les confesses comme Dieu. C'est lui qui sait et qui est capable de t'en sortir et si tu es sa sœur devant lui. Le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est l'obéissance. Et nous revenons là-dessus. Dans beaucoup de prédications, nous revenons sur l'obéissance. Parce que c'est par l'obéissance de Jésus-Christ que nous avons le salut. Être obéissant, ce n'est pas à dire que ça, tu deviens un dingue, mais être obéissant, ça fait partie de ce qui doit caractériser celui qui est en Christ. Les disciples et les propriétaires de l'anneau n'ont pas opposé de résistance à la parole de Jésus. Ils n'ont pas discuté sur l'ordre que Jésus avait donné. Ils ont seulement obéi aux ordres de Jésus. Cela dit, nous n'avons pas à résister contre les ordres à que Jésus nous donne dans sa parole. Nous devons par contre obéir à ces ordres-là parce qu'ils sont notre vie. Ne pas obéir à la parole de Dieu, ne pas obéir aux ordres de Dieu. Là, on n'est pas dans le vrai, on est dans le faux. Parce que nous devons savoir que la parole de Dieu, la parole de Jésus ou les paroles de Jésus sont notre vie. Et nous devons les prendre bras le corps. Parce que la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 3, verset 6, nous dit que les ordres de Dieu, en rapport donc avec les ordres de Dieu, que ces ordres-là sont, nous sommes appelés à les reconnaître dans toutes nos voies. Parce que ce sont les ordres par lesquels Dieu a plani nos sentiers. Mais bien aimé, nous parlons de l'obéissance, parce qu'elle est importante et fondamentale dans l'existence de tout un chacun. Le propriétaire de l'anneau a lâché du lest par rapport à la bête. Il ne s'est pas agrippé à son anneau, qui constituait toute sa richesse. Mais on lui a dit seulement que le Seigneur en avait besoin. Quel modèle pour nous? Est-ce que d'abord, Jésus est le Seigneur de ta vie? Mais parce que le propriétaire savait bien que, comme c'est le Seigneur qui en a besoin, mais qu'est-ce que je peux ne pas donner facilement au Seigneur? Et c'est parce qu'il avait déjà appris de Jésus-Christ et que Jésus-Christ était partie intégrante de son existence. Et voilà qu'il était disciple. Et un disciple qui vivait sa vie en cachette. Mais il fallait qu'il le montre publiquement devant les uns et les autres. Est-ce que le Seigneur Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? C'est ça la question. Est-il le Seigneur de tes biens, de tout ce que tu possèdes, de tout ce que tu as? Le pasteur Vincent, notre pasteur, a toujours dit une phrase qui consiste à dire quoi? Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, c'est qu'il n'est pas le Seigneur du tout. C'est que si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, de tout ce que tu as, c'est que ça ne sert à rien de l'appeler ton Seigneur. Les propriétaires de l'anneau avaient fait cette expérience. Par son obéissance, il a contribué à l'accomplissement de quoi? De la prophétie de Jérémie, alléluia. De Zacharie, pas de Jérémie. Par son obéissance, il a participé, il a contribué à l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne voyez-vous pas que notre manque d'obéissance peut constituer un obstacle pour l'accomplissement de la prophétie de Dieu en faveur d'une personne ou de l'humanité tout entière? Comment nous vivons notre obéissance vis-à-vis du Seigneur? Je m'en vais vous rappeler que notre manque d'obéissance peut constituer un obstacle pour que Dieu ne puisse pas accomplir sa promesse en faveur d'une personne ou de l'humanité tout entière. Jésus a besoin de quelque chose pour qu'il accomplisse sa prophétie en faveur de l'humanité. Jésus a besoin de quelque chose pour qu'il accomplisse sa promesse en faveur de notre pays. Il a besoin de ton cœur qui est disposé à le recevoir et à se laisser conduire par lui. Alléluia. Le Seigneur a besoin de la disposition de mon cœur pour qu'il accomplisse sa prophétie en faveur de mon pays. Troisième élément, c'est la monture que Jésus avait prise. Un anneau, le petit de l'âne. Et ça symbolisait la royauté même de Jésus. Mais une royauté à qui est humble, un règne à qui est humble. Et c'est donc l'humilité qui est la nature même du pouvoir de Jésus. C'est qu'au cœur de l'exercice du pouvoir de Jésus, il y a l'humilité. Jésus n'avait jamais montré ses biceps, même s'il en avait, pour faire face à l'hostilité qui était au devant de lui. Jésus exerce un pouvoir que moi j'appelle dans mon jargon, un pouvoir sans pouvoir. Telle est la royauté de Jésus-Christ. Un pouvoir qui se dépouille de toute autorité. Un pouvoir qui est au service d'un plus grand nombre. Je sais que chacun et chacune d'entre nous a une casquette. Même si vous ne la voyez pas sur vos têtes, moi je sais. Papa, maman, cette autorité que Dieu t'a donnée dans la famille, cette autorité que Dieu t'a donnée pour que tu l'exerces dans la famille, est-ce que cette autorité-là est irriguée par le pouvoir de Jésus? Papa et maman, est-ce que vous laissez votre casquette être irriguée par le modèle du pouvoir de Jésus? Et ce pouvoir qui est au service des autres, d'un plus grand nombre, pas un pouvoir qui est un pouvoir domination. Jésus nous appelle, mes bien-aimés, où que tu sois, et la casquette que tu portes, que cette casquette d'abord soit soumise à l'autorité et au modèle du pouvoir de Jésus. Vous savez combien les parents exercent le pouvoir sur les enfants? Et d'ailleurs, ils vont très loin, comme s'ils avaient le droit de vie ou de mort sur les enfants. Et tout le temps, Misha Kwambia n'a point un train, c'est tout. Ça, c'est quoi comme pouvoir? Pouvoir domination. Mais si votre pouvoir est irrigué par le modèle de Jésus, je vous assure, toutes ces appellations-là qui sont des sobriquets que les enfants vous donnent, ça va tomber de toutes pièces. Là où tu passes tes journées, tu es responsable d'un département, d'un service. Comment tu conçois ton pouvoir? Quand je vais me lèser, bah toi t'as connu. C'est ça ce que vous dites, n'est-ce pas? Si je me lèse, je vais aller à Katotouang. Non, non, je dois exercer mon pouvoir sur moi. Et qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Jésus nous rappelle ce matin que notre pouvoir doit prendre comme modèle, doit être calqué sur le modèle du pouvoir de Jésus. Quatrième élément et sur lequel je vais m'arrêter, c'est la louange et la reconnaissance au roi. La louange et la reconnaissance au roi. Nous venons d'expérimenter ça et je ne peux que rappeler une chose. Ce que Dieu fait dans nos vies ne doit pas nous laisser indifférents. Les disciples et les curieux qui étaient là en train de louer le Seigneur, ils le faisaient pour les miracles qu'ils avaient vus et Dieu en train de réaliser dans notre existence. Dans leur existence d'abord et dans la nôtre aussi, parce que Dieu fait beaucoup de choses. Vous êtes témoins, c'est Dieu qui nous donne la vie au quotidien dans notre pays. Jour après jour, parce que dans notre pays, l'insécurité est telle que quand tu rentres dans le lit, tu ne sais pas si tu vas te réveiller le matin. Parce que tu ne sais pas si tu seras visité par qui. Et quand Dieu te redonne encore la grâce d'être là le matin, quand il renouvelle ses bontés, et tout ce que tu peux dire, merci Seigneur. Et la louange doit éclater de nos bouches. Pour la santé qu'il nous donne. Ah, j'ai beaucoup aimé le pasteur, mon pasteur Ndoune, quand il était là devant. Pour montrer que le Seigneur a fait des choses. Il a dit, mais là je vais vous le montrer. Parce que vous m'avez vu avec qui. J'arrive sans avec qui. Et je vais marcher au-devant de notre Seigneur. Et pour juste dire ma reconnaissance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour tout ce qu'il accorde comme grâce dans notre existence en tant que communauté de Goma Ouest. Ça, c'est encore une action de grâce que le Seigneur vient de nous faire vivre et pour lequel nous serons toujours des témoins. Le Seigneur fait des choses. Merci. Et merci d'être venu avec toute la famille pour témoigner de ça. Et toute la famille, nous devons acclamer encore une fois le Seigneur. Parce que c'est ça. C'est ce que le Seigneur nous demande de vivre. Nous ne devons pas être indifférents par rapport à... Nous ne devons pas nous laisser vivre dans l'indifférence dans le Seigneur, dans ce que le Seigneur nous donne. Le soleil, même si c'est dans les habitudes d'avoir le soleil. Oui, la pluie, la nourriture, bref, le minimum de vie que le Seigneur nous donne et que nous recevons de sa part, doit nous pousser à faire éclater le ciel par les louanges. La foule a connu ça. Même si parmi la foule, il y avait des gens à qui se posaient beaucoup de questions, mais c'est la majorité qui avait reconnu ce que le Seigneur fait dans leur existence. Et tout ce que nous vivons au quotidien, ce que le miracle est de notre Seigneur. Vous avez attendu dans la semaine que notre frère, Papa Moura, s'était fait opérer à Kigali. Et il en est sorti. Et il est en train de se rétablir. Oui. Et hier, je l'ai appelé sur WhatsApp, il m'a dit, a une parole. Il dit, le Seigneur m'a forcé d'avoir un repos et je suis en train de me reposer dans le Seigneur. Ah, j'ai dit à mon frère, qu'est-ce que tu sais dire les choses dans un humour. Mais ça, c'est parce qu'il est témoin de ce que le Seigneur vient de faire dans son corps. Et il veut à ce que nous puissions aussi rendre gloire au Seigneur
pour ce qui vient de nous s'accorder encore comme grâce. Nous devons le reconnaître tout ça et que c'est lui qui l'a fait en son temps. Et je vais finir alors par le psaume 103 que nous connaissons bien. Le psaume 103, c'est par là que je vais finir. Je vais juste faire la lecture. Mon âme fait quoi? Lisons ça tous. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme
bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun
de ses bienfaits. C'est lui qui fait quoi? Qui pardonne toutes tes fautes. Et qui fait quoi? Toute maladie. Et qui fait quoi? Rachète ta vie du gouffre. Et qui fait encore quoi? De bienveillance et de compassion. Et qui fait quoi? Qui te rassasie de bien ta vieillesse. Et alors, qui te fait rajeunir comme l'air. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans